Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
La bulle immobilière. La bulle avec
votre animateur
Jean-François Morin.
Jeff
Morin, courtier immobilier.
Et son co-animateur
Kevin Filion. À chaque semaine, on reçoit des experts sur tout ce qui touche l'immobilier.
Et on jase
des questions,
des réponses
pour tout ce que vous devez savoir
dans l'univers immobilier.
La bulle immobilière.
Bienvenue à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage. J'espère que vous êtes en forme parce que notre équipe est en feu. On reçoit une femme aujourd'hui. Les hommes, soyez à l'écoute parce qu'on a beaucoup de contenu super intéressant. Salut Kevin, comment ça va?
Hey, écoute Jeff, ça peut pas mal aller. Il fait 18 degrés dehors. Je sais qu'on est en pré-enregistrement, mais bon.
Fait qu'on peut pas savoir si l'été au mois de novembre.
C'est ça, exact. L'été au mois de novembre. Fait que ça va toujours bien avec un beau soleil demain.
Puis, au niveau de l'immobilier, on reçoit encore puis toujours des gens qui sont spécialisés, qui sont nichés dans différents domaines. Puis, on a souvent des gens qui ont des parcours atypiques qui réussissent super bien dans l'investissement immobilier. Puis aujourd'hui, c'est le cas. Bonjour Alexandra Côté, comment ça va?
Salut, ça va bien, merci.
Je suis content que tu aies accepté notre invitation. C'est vraiment cool encore qu'une personne de Montréal puisse se déplacer pour nos enregistrements. T'es copropriétaire de Les Immeubles à Côté.
Exactement.
Puis toi, t'es dans l'investissement immobilier.
Oui.
Puis t'as un parcours un peu atypique par rapport à l'investissement immobilier.
Pourquoi tu dis atypique?
Ben, tu sais, parce que généralement, les gens vont... atypique peut-être pas, mais généralement, les gens peuvent avoir un parcours global qui va avoir beaucoup de champs d'expertise par rapport à différents sujets sans nécessairement être spécialisé là-dedans. Sauf que toi, tu as eu quand même l'occasion de travailler les deux pieds là-dedans.
Exactement.
Avant de commencer tes investissements.
Oui, parfait.
Puis au niveau de ton parcours, je pense que tu as un bac en administration des affaires. Puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé dans ton parcours?
Exactement. Dans le fond, j'ai fait mon bac à l'Université Laval à Québec. Puis quand j'ai terminé mes études, j'ai essayé de trouver des emplois, mais je trouvais rien de super motivant de qu'est-ce qui m'intéressait. Fait qu'à un moment donné, ben j'ai plié les bagages, j'ai pris mon sac à dos, puis je suis allée travailler en Australie.
Wow!
T'es allée te trouver à l'autre bout du monde.
Exactement. Je pense que tout le monde devrait faire ça au moins une fois dans sa vie, là, partir. Puis.
T'es-tu parti longtemps là-bas?
Oui, j'ai habité là pendant un an et demi.
OK, quand même. Puis avec ton pack sac, sans emploi, t'avais-tu quelque chose de déjà prévu?
Non, j'avais absolument rien de prévu. Puis quand je suis arrivée, dans le fond, j'ai commencé à postuler pour des emplois. Puis j'ai commencé à travailler dans une entreprise. On faisait du Booking.com puis Airbnb. Fait que j'ai géré 50 propriétés à Sydney tout de suite en arrivant.
OK. Fait que tu t'es mis tout de suite les pieds dans l'immobilier en arrivant là-bas. Là.
Exact. C'est drôle. Je trouvais rien d'intéressant au Québec. Puis deux jours après, j'avais déjà un emploi temps plein là-bas.
Mais après, ouais, quatre jours après, parce qu'il y avait le deux jours.
Ouais, c'est ça. Il y avait le décalage.
Puis, au niveau de l'Australie, tu as travaillé un an et demi là-bas, ouais. Tu as fait du Airbnb, puis on parle des années, quelle année ça que tu étais là-bas?
J'étais en 2016-2017.
OK, puis il y avait déjà du Airbnb qui était implanté là-bas.
Ça faisait 10 ans qu'il y avait le Airbnb, puis c'était vraiment connu, puis il y avait des business de ça. Puis,
c'est un genre de luxury retreats ou que tu travaillais là-bas ou comme...
Ben, ça s'appelait Bondi Beach Holiday Homes, fait que c'est genre, ils géraient pour les propriétaires qui veulent partir. Mettons, tu dis, moi, je m'en vais en voyage pendant un mois, puis vous louez ma maison pendant un mois. Fait que là, on louait ça.
Comme un gestionnaire immobilier, mais exact. Pour Airbnb pour à court Airbnb. Terme.
Ouais.
OK, cool. Fait que tu préparais l'endroit,
ouais,
tu
maisons,
gérais le, toute la partie ménage, location, tout le booking pour
exactement.
Les gens.
Exactement.
Ah, wow, c'est quand même super cool. Hein. Puis après ça, t'as contacté un de nos invités aussi. Là. C'était-tu avant à l'Australie
c'est
ou
juste après?
En revenant. Écoute, elle a contacté Émile Desparents de H2 Pro. Puis ouais. By the way, je donne le cue comme ça, ils vont construire une piscine l'été prochain chez nous. Fait que tu sais, moi, qu'est-ce que j'aime dans ma cour, c'est de faire affaire avec nos professionnels avec lesquels oui. On va faire affaire. Puis pour vrai, ils sont venus chez nous, ils nous ont super bien orientés. Excusez-moi pour la parenthèse ouais. Par rapport à tout ça. Puis toi, tu l'avais contacté justement parce que tu avais un intérêt de peut-être partir en affaires ou quelque chose comme ça?
Ben exact. Là, dans le fond, t'sais, c'est sûr que j'ai vraiment aimé mon séjour en Australie. Tu vis vraiment au jour le jour sans jamais trop penser à demain. Là. T'es plus en mode voyage. Puis quand je suis revenue, ben là, j'avais comme vraiment le goût de me partir une business, avoir quelque chose qui me reste. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai contacté Émile, puis lui, il faisait des franchises. Mais dans le fond, on a été en contact tout le long de mes voyages, vu qu'on avait étudié ensemble. Puis là, c'est ça, j'avais commencé à faire des entretiens de piscine avec lui, puis tout ça. Lui, il cherchait plus comme quelqu'un de gestionnaire. Moi, je suis pas la personne la plus manuelle, mais tu sais, j'aime ça apprendre. Fait que c'est comme ça. Puis finalement, j'ai changé pour l'immobilier. Finalement, j'ai laissé tomber les piscines.
Puis t'es actuellement propriétaire de quand même quelques immeubles.
Exact.
Puis t'as quand même plusieurs locataires aussi. Là, fait qu'on parle pas d'un quadruplex ou quoi que ce soit. Puis c'est un peu diversifié aussi au niveau de ton parc.
Oui, c'est ça. On a des immeubles qui sont neufs, puis j'en ai aussi des plus âgés. Souvent, on choisit des immeubles avec un beau potentiel d'optimisation, là, fait que il y a de l'amour à donner, puis il y a des rénovations à faire, mais c'est pas moi qui vais les faire. Je mets la main à la pâte, mais sinon, tu sais, je m'arrange pour être là avec les personnes quand ils vont, puis d'essayer de comprendre comment ça se fait, pour après ça être en mesure de donner les indications pour le staff.
T'en apprends au travers de ça, côté
ça.
Rénovation.
Il y en a toujours à apprendre.
C'est sur la rive sud de Montréal, c'est-tu
ouais,
ça? C'est
moi, où, je suis tout à Saint-Hyacinthe, là, puis Saint-Hilaire.
OK, fait que c'est tout concentré là, autant ton neuf que ton usager
ouais.
Des immeubles. Cool, c'est quoi les grosseurs à peu près d'immeubles que t'as?
Dans le fond, on a construit deux quadruplex, sinon okay. j'ai des six, puis le dernier que j'ai acheté toute seule, c'est un neufplex.
OK. Puis comment tu trouves ça, le neuf versus comment tu gères ça? Là?
J'aimerais plus ça me diriger vers le neuf. Là. Okay. C'est sûr que tu sais, j'ai un emploi temps plein, puis l'immobilier, je fais ça les soirs pour la fin de semaine. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr que gérer les travaux puis la rénovation, c'est surtout que ça se fait dans le jour. Là. Fait ouais. qu'à un moment donné, j'ai beau planifier le soir, quand il y a un appel d'urgence, ça se fait dans la journée.
Ouais.
Fait que non, mais j'aime ça avoir un peu des deux. Là. J'aime ça être diversifié puis apprendre de tout ça. Là.
OK. Puis est-ce que tu es seul dans toi? Parce qu'on disait co-actionnaire, est-ce que tu es seul dans tes non, investissements? Est-ce que tu as quelqu'un d'autre justement qui peut pallier puis t'aider de jour sur semaine ou t'aider dans ta gestion?
Ouais, je ferais jamais ça toute seule. Dans le fond, je suis associée avec mon père. Puis on a monté une petite équipe là aussi avec le temps. Fait que j'ai une gestionnaire aussi qui m'aide beaucoup là-dedans.
Okay.
J'ai un homme à te faire. J'ai d'autres personnes que je peux appeler.
Ta dream team, comme on dit.
Ouais,
cool. Vraiment. Puis, tu sais,
ça prend ça,
c'est exact. Sûr. Puis, par la suite, arrive ta formation ou ton niveau académique aussi, parce que t'es quand même formé pour devenir une meilleure gestionnaire, une meilleure entrepreneur au niveau de l'investissement immobilier. Puis, tu sais, c'est ce qui t'a amené aussi dans le prêt privé, dans l'analyste, etc. Fait que ça a été quoi ton expérience par rapport à ça ou ton cheminement par rapport à ça?
Oui, dans le fond, quand j'ai eu l'appel comme quoi que l'immobilier, ça serait quelque chose qui m'intéressait, ben là, j'ai commencé à faire des activités de réseautage j'ai commencé avec les mordus d'immobilier, des journées de formation, puis de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai rencontré Jocelyn Grégoire. Puis dans le fond, il y avait un projet d'investissement, puis on embarquait avec lui, puis dans le fond, qu'est-ce qu'il offrait, c'était du mentorat une heure par mois. Fait que là, en assistant à ça, bien, à un moment donné, j'ai dit, tu cherches pas quelqu'un dans ton équipe pour faire de l'immobilier. Puis il y avait un poste qui s'était créé d'analyste financière pour Sedma Finance, le prêteur privé. Donc, j'ai sauté à pieds joints là-dedans. Puis j'ai vraiment adoré là, travailler là-dedans parce que c'est super stimulant, dans le fond. À tous les jours, il y a des investisseurs immobiliers qui te présentent des projets dans plusieurs secteurs, n'importe où au Québec. Puis, dans le fond, il faut les analyser, il faut regarder... c'est quoi le potentiel, puis il faut aider les gens à travers tout ça, parce que tu sais, il y en a qui commencent, puis il y en a qui sont plus avancés,
oui.
Mais faut les aider là-dedans,
appuyer des solutions. Les deux,
exact.
Tu faisais jusqu'à récemment, autant la partie financière de l'analyse que c'est qui est devant toi, c'est quoi son bilan, puis c'est
exact.
Qui la personne. Puis la partie financière, c'est-tu quelque chose que tu avais justement travaillé surtout à l'université, ou Parce que moi aussi, j'ai fait mon bac ici à Laval, là, mais c'est quoi que t'avais? Tu t'es spécialisé en quoi?
J'ai fait gestion internationale puis entrepreneuriat.
OK.
J'aurais pu faire finance, là, dans le fond, là, mais après ça, j'ai travaillé dans les institutions financières aussi.
OK.
Fait que ça m'a donné un petit aperçu de ça ressemble à quoi, mais tu sais, je pense que même une de mes forces dans les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, c'est rapidement quand je vois un bilan ou un état financier, ben, je suis capable de dire il y a quelque chose qui se passe ici. Je pense qu'il y a des pertes d'argent ou il y aurait possibilité d'aller chercher plus de profit. Ben, fait que là, c'est un peu ça que je fais avec le bilan, avec les gens quand ils me présentent un projet immobilier. Je les aide à organiser des structures de financement pour qu'ils soient en mesure d'acheter.
C'est toute la c'était des projets partout dans la province.
Ouais, fait
que, c'est ça. Y a-t-il une notion que tu dois connaître aussi le secteur ou tu t'en remets à l'investisseur qui te présente le projet ou tu fais une recherche vraiment
pour appuyer
le dossier? Parce qu'après ça, tu le présentes, j'imagine, à un investisseur plus passif qui va finalement recevoir le dossier que tu as présenté.
Exactement. Il faut que tu regardes dans tous les secteurs. T'sais, puis là, tu fais appel avec plein de professionnels du secteur. Là, t'sais, je veux dire, je vais appeler un courtier immobilier. Est-ce que tu penses que ça va se vendre ce prix-là? Je vais appeler.
On a un bon à Québec maintenant.
C'est good. Je prends ça en note.
Merci, merci. Fait que tu sais, avec les. Puis on va en parler tantôt du portrait du prêt privé. Justement, comment bien monter notre bilan, comment bien présenter nos états financiers, puis s'assurer d'avoir une meilleure structure, si on veut, papier, pour s'assurer de pas franchir les différentes étapes, là, parce que c'est quand même une étape importante, là, la présentation de ton entreprise, puis le bilan de l'investisseur qui est là. T'es une fille qui est super présente sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les mordus, assurément, mais que ce soit sur les autres réseaux. T'es une fille qui commande beaucoup, t'es une fille qui aime partager son expérience, puis son savoir par rapport à tout ça. Puis une des choses qu'on a aimé aussi dans la pré-entrevue, c'était une question de ton mindset ou la philosophie at large. Puis j'aimerais ça tantôt, juste après la pause.
Pas pour les doux, ça, mon homme!
L'immobilière au 96.9 Alternative Radio.
On est de retour à la bulle immobilière, toujours avec Kevin Filion et Jean-François Morin. Je suis courtier immobilier ici dans la région de Québec. Si jamais vous avez besoin d'informations sur l'immobilier et où vous faire représenter pour l'achat ou la vente, pourquoi pas se plugger, contactez-nous directement à jean-françois-morin.ca. Mais qu'est-ce qui est vraiment le plus important avec la bulle immobilière, c'est qu'on est disponible sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, sur Balados. J'aime ça dire ça comme ça.
Balados.
Je trouve ça vraiment trop drôle. Puis... aujourd'hui, on reçoit encore Alexandra Côté. On parlait juste avant la pause d'un peu son parcours, etc. Mais une des choses qui est vraiment intéressante, c'est comment qu'elle a un mindset d'installer par rapport à l'investissement immobilier. Puis une des choses que tu nous parlais, c'était de voir l'entrepreneuriat un peu comme un sportif. Puis j'aimerais ça que tu puisses nous donner un peu ton Q-line là-dessus, puis comment tu vois ça?
Ben exactement. Juste comme exemple, là, cet été, je me suis inscrite pour faire un marathon. C'était la première fois que j'allais courir cette distance-là. Puis ça fait peur à un moment donné quand tu regardes ça, 42 km. Tu sais, je courais un petit peu, là, mais pas nécessairement des longues distances comme ça. Puis c'est juste à un moment donné d'établir un plan de match, vers quoi tu veux aller. Puis c'est sûr que quand tu regardes la montagne, ben oui, elle est haute. Mais si tu le sépares en petits pas, ben tu arrives à faire quelque chose. Fait qu'à toutes les semaines, je me mettais des objectifs. Bon, mais il faut que j'aille faire telle distance. Puis là, c'est juste que le COVID est arrivé. Fait que là, mon événement est annulé. Puis là, tu sais, dans le fond, c'est un peu comme l'entrepreneuriat, là. Tu vas avoir...
Tu peux pas le courir de ton salon, le marathon, non, je sais pas.
Ben, c'est 42 km, fait, oui, tu peux le courir de n'importe où. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est le fun. Tu sais, moi, je suis une fille d'équipe, fait que j'aime ça quand il y a... Ah, ben, quand il y a l'esprit d'équipe, là, tu sais, puis, tu sais, admettons, t'es 1000 personnes à un départ, puis tout le monde s'encourage, puis ça, c'est le fun.
Oui.
Mais là, je me suis dit, ben, c'est pas parce qu'il y a pas d'événement que j'irai pas courir le 42 km. C'est un peu comme en entrepreneuriat, tu sais, il va toujours avoir un obstacle, puis là, ça, c'est là pour te challenger, mais le but, c'était de faire le 42 km. Pour moi, c'était pas d'avoir le meilleur temps possible. Fait que c'est ça, je suis allée courir, puis j'ai réussi, puis après ça...
T'es allée courir ton 42 km quand même, sans événement.
Exact.
Wow, puis sans encouragement.
T'as-tu mis une petite banderole en fait de la rue où t'étais, quelque chose?
J'aurais pu, mais non, je suis allée vraiment dans
simplicité,
ouais. OK, cool. Puis là, dans le fond... l'inscription, il nous renvoie un courriel comme quoi, oui, vous êtes inscrit pour l'année prochaine. Là, je suis comme, ah, mais là, j'avais pas
pris. Oups!
Parce que...
T'as pas pris goût à ce point-là.
Non,
c'était un défi one shot.
Ouais, mais je vais sûrement le faire.
Ouais, c'est ça, me semblait aussi.
Fait que c'est un peu de même en investissement immobilier. Tu sais, quand tu dis, je vais avoir, sais, mettons, je vais avoir 100 portes. OK, mais qu'est-ce que tu fais demain puis aujourd'hui qui vont te permettre d'aller jusque-là? Fait que c'est... Tu sais, à tous les jours, j'aime ça apprendre pour rejoindre mes objectifs. Fait que si tu veux 100 portes, qu'est-ce que tu fais cette semaine? C'est qui les personnes que tu vas rencontrer? Est-ce que tu as des stratégies pour refinancer tes autres immeubles pour te permettre d'acquérir tout ça? Fait que...
C'est quoi tes actions au jour 1 puis pour la prochaine semaine? Fait qu'on établit des stratégies par rapport à ça. Puis il faut que l'exécution suive aussi la stratégie. Il ne faut pas juste le mettre sur papier. Il faut qu'on ait une exécution qui suive ça. Puis je trouve ça le fun que tu en parles parce qu'on met ça en place justement dans, à l'intérieur de notre équipe. On a beaucoup de projets qui sont mis de l'avant. Puis tu sais, on a un guideline qui est donné, sauf que tu sais, c'est difficile à suivre vraiment les projets, puis c'est quoi les obstacles, puis les pits, puis qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution par rapport aux difficultés. Puis c'est un peu ce qu'on fait actuellement à l'intérieur de notre équipe, comme on a un très gros volume d'affaires qui est hors norme de qu'est-ce qu'on est habitué de faire, ben là on doit réajuster un peu notre façon de travailler. Puis là on revoit nos processus, puis en donnant un guideline, je suis convaincu que dans les prochains 2 mois on va avoir une efficacité qui va être extraordinaire par rapport à tout ça. Puis le fait d'amener ça aussi avec un esprit d'un sportif, ben tu sais, les gens qui vont avoir des résultats au niveau national, international, c'est des gens qui vont avoir une discipline, c'est des gens qui vont avoir une rigueur, c'est des gens qui vont faire des sacrifices aussi pour arriver à leurs résultats. Fait que tu sais, un entrepreneur qui va être à succès ou qui va réussir, ben c'est sûr qu'à certains moments, il va faire une conciliation entre son travail, tu sais, son travail, sa vie familiale, ses occupations personnelles, puis c'est toujours un challenge aussi tout ça, là. Puis toi, comment tu réussis à passer au travers de ces obstacles-là?
Ben, je pense que c'est important de faire une introspection, de se demander, admettons que tu viens de finir une transaction, qu'est-ce qui a bien été, puis qu'est-ce qui a moins bien été, puis ça te permet aussi de t'améliorer dans les prochaines fois. Je pense que c'est un peu ça que tu fais avec ton équipe, dire, bon, ben ça, on a un problème, qu'est-ce qu'on fait pour le résoudre? Puis aussi résoudre, là, tu sais. Moi, je suis quelqu'un d'orienté vraiment vers les solutions. Fait qu'il n'y en a pas de problème. Qu'est-ce qu'on fait pour adapter? Tu n'arrives pas à parler des choses négatives. Il y a juste des solutions. Fait qu'avec ça, je pense un mindset de même, mais c'est sûr que tu arrives à avoir des résultats aussi.
Puis toujours dans le parallèle avec le sport, tu penses-tu que c'est plus le sport qui tire dans l'immobilier ou c'est l'immobilier qui tire dans le sport? Dans le sens que, tu sais, dans les deux, tu donnes des objectifs puis tu montres. Mais étais-tu déjà une sportive avant? Puis ça, t'as comme transposé ça dans l'immobilier ou les deux nourrissent un et l'autre?
C'est une bonne question. Dans le fond, quand j'étais en Australie, à un moment donné, j'ai comme lâché un j'ai toujours travaillé avec 2 emplois. Puis j'en ai lâché un. Puis là, j'avais vraiment beaucoup de temps. Fait que là, je me suis dit, ah, ben, je vais commencer à m'entraîner. Fait que là, ça fait comme 4 ans que je m'entraîne, tu sais, mettons 5-6 fois semaine. Puis après ça, j'ai commencé à faire des triathlons. Là, j'ai fait un demi-Ironman. Mais tout ça, c'est comme tout interconnecté. Je me dis, si j'ai la discipline de m'entraîner, mais j'ai la discipline d'entreprendre ma business en immobilier. Fait que ça va, un va avec l'autre. Puis aussi, plus que tu fais du sport, plus que tu as de l'énergie. Plus que tu as de l'énergie, ben, t'es capable d'être plus performant aussi au travail.
C'est clair, effectivement. Je pense que je vois ça comme ça aussi. Là, un nourrit l'autre, puis c'est un parallèle. Dans le fond, tu te donnes des objectifs des deux côtés, puis tu as le goût de pousser la machine. Puis souvent, c'est les gens... On dirait qu'ils en font le plus, qu'ils trouvent le plus de temps pour en faire plus. Là. C'est un peu ça. Là.
Exact.
Souvent, plus t'es smooth, on dirait plus tu trouves pas le temps pour faire tes choses. Là.
Comme tu dis aussi, je pense que c'est de dire que j'ai le goût d'aller au fond des choses, voir je suis capable de me rendre jusque-là. T'sais. Après ça, je l'ai fait le marathon, mais après ça, je me dis, bon, serais-tu capable de faire un ultra 55 dans les montagnes?
Ouais.
Tu veux savoir c'est quoi?
J'ai un ami qui fait David Castonguay, tu le connais?
Ouais.
Tu penses, c'est un malade de ça, là. Ultra trail. Là.
Mais je sais pas, tu veux savoir c'est quoi ta limite à toi, jusqu'où tu peux atteindre? Parce que, tu sais, il y a bien du monde qui font comme, ah, j'ai fait ça, puis après ça, ils s'assoient là-dessus. Mais moi, je pense qu'on n'utilise pas nécessairement 100% de notre potentiel. Fait que c'est pour ça que c'est bon de développer son mindset.
Puis d'avoir une notion aussi que tu apprends à gérer ta peur d'un événement. Fait que ça, encore une fois, tu le retransposes dans l'immobilier. Tu sais, la peur de faire un gros deal, la peur de pas avoir le cash au moment où l'opportunité se présente, ben peut-être que tu es plus capable de gérer ta peur parce que tu t'es donné des défis au niveau sportif.
Exact. Ben, je fais du crossfit aussi. Puis, tu sais, mettons, à un moment donné, il faut que tu apprennes des nouveaux mouvements. Fait que c'est sortir de ta zone de confort à tous les jours. Puis, c'est la même chose que, tu sais, mettons, tu fais de la prospection. Ben là, faut que tu l'appelles le vendeur, mais là, t'es comme, je l'appelle pas, je vais remettre ça demain. Non, c'est maintenant, tu le fais, puis après ça, tu vas être content. Fait que, tu sais,
c'est... Call, call, hein?
Ah oui, puis une des choses qu'on doit se donner la discipline de faire, tout ce que vous aimez pas faire dans une journée, startez votre journée avec ça. Comme ça, là, vous allez être sûr que tout le reste va être cool, là, votre journée. Puis, tu vois, moi, c'est une drôle d'image que je vais vous donner, mais parler au téléphone, je déteste ça. T'sais, mon objectif, moi, c'est de raccrocher le plus rapidement possible. Est-ce qu'on a réussi à concilier notre discussion pour pas avoir à parler plus longtemps? Moi, ça n'est un de...
Ça explique
de,
beaucoup des appels qu'on a eu ensemble.
Des fois. Content
de comprendre.
Puis tu sais, pour vrai, là, d'appeler les gens qui soient pas disponibles, puis qu'après ça, que les gens me rappellent que moi, je suis pas disponible, puis là, d'avoir juste des listes d'appels à faire, pour vrai, là, j'ai de la difficulté avec ça. Puis comme je me lève super tôt, ben il y a jamais personne qui est levé à 4h20 que je pourrais clencher ma journée puis faire ça. Fait que là, faut que j'attende que la journée, débute pour la vie normale des gens. Mais Christy, moi, ça fait déjà genre une demi-journée que je travaille. Là,
ça
fait
te permet
que
de faire des choses à l'abri de tous ces appels-là parce que t'es courtier.
Exact.
Donc, tu passes ta vie au téléphone d'une façon ou d'une
autre. Mais assurément que la discipline, la rigueur, le suivi des objectifs puis de se donner des KPI, là, des Performance Indicator, de savoir à quel moment, si ça a été acquis et pas acquis, puis comment qu'on le réajuste pour les prochains, c'est ce qui fait en sorte qu'on va pouvoir avancer beaucoup plus rapidement. Tu avais dit un mot quand même super important dans la discussion, tu as parlé de prospection. Puis tu sais, on a parlé à quelques émissions, etc., mais on aimerait ça que tu nous donnes, sans dire ta sauce secrète par rapport à ta prospection, mais que tu nous dises un peu comment que toi, tu fonctionnes au niveau de ta prospection.
Ben tout est bon dans le fond, faut que tu le dises aux gens que tu veux acheter des immeubles premièrement, je pense. Ensuite de ça, ça peut être quelqu'un de la famille qui dit « Ah, je connais quelqu'un qui veut vendre son immeuble. » Ça veut pas nécessairement dire que l'immeuble t'intéresse, mais déjà là, tu vas commencer à faire ton pitch. Qu'est-ce qu'il faut que tu dises au vendeur? C'est quoi l'information qu'il faut que tu ailles pour après ça être en mesure de l'analyser, voir si ça serait une opportunité intéressante ou non. Fait que j'en parle à tout le monde, tu sais, j'appelle Kijiji quand il y a des annonces à louer, ben je suis pas stressée d'appeler le propriétaire. Sinon j'en ai trouvé un aussi en joguant. Ça c'est les
perles.
Ouais, les petites perles, exact, avec la pancarte noire et orange à vendre du propriétaire. C'est sûr, je suis à Saint-Hyacinthe là, on s'entend qu'il y en a sûrement plus qu'à Montréal ou
la pancarte se fait arracher puis se t'acheter dans les 5 minutes d'après sur l'île.
Ben c'est ça, dans le fond, j'ai trouvé en jogging le matin, le monsieur il venait de mettre la pancarte, puis j'ai fini mon jogging, j'ai dit je m'en viens vous rencontrer ce soir, je suis allée là, j'ai fait une promesse d'achat puis j'ai l'acheté. Fait que ça a pris deux.
Aussi facile que ça?
Aussi facile que ça, puis tu sais, c'est un projet à développer là, dans le fond, dans la rue il y a comme un duplex, un quadruplex, là il y avait la petite maison, un autre quadruplex, puis là je me suis dit, je suis allée voir la grille de zonage.
Ça fait pas de sens.
Je peux construire.
Ouais.
Fait que présentement, j'ai mis des locataires, mais je me dis c'est un projet ensuite de ça qui peut faire du sens. Puis que je
peux puis en même temps, ça te permet de pouvoir développer ton projet aussi. Là.
Exact. Ouais. C'est ça.
On a parlé récemment justement des projets neufs, qui a quand même un temps pour justement mettre en place le projet, le développer, s'assurer d'avoir les permis, vérifier le zonage avec la ville. Fait que si tu le loues entre-temps, ben,
exactement,
tu monnaies au moins cette démarche-là. Là. Fait que c'est une maison que tu loues, c'est ça?
Oui, c'est une maison que je loue. Puis elle était super en ordre là, quand je l'ai achetée. Okay. Elle était prête à aménager. Puis c'est un entrepreneur qui l'avait. Fait que... Mais okay. Sinon aussi, pendant le confinement, j'en ai profité pour envoyer des lettres de prospection, comme JP Jalbert, là, votre invité, faisait. Ben le taux de réponse a vraiment été intéressant. C'est sûr que je me disais, c'est peut-être à cause du confinement, là, les gens sont moins occupés. Ils
étaient contents de recevoir une lettre de quelqu'un. Ouais,
exact. Fait que c'est ça, fait que j'ai eu un super beau retour. Puis dans le fond, ça en prend juste un dans ce temps-là qui t'appelle et qui dit qu'il veut vendre au prix que tu veux. Puis c'est ça, j'ai contacté le monsieur. Puis ça a été en avril. Puis dans le fond, au mois de juin, je notariais. Fait que...
Ah, cool. Puis tu sais, un des success stories là, qu'on peut donner, ou tu sais, des trucs qu'on peut donner pour de la prospection, là, la récurrence, c'est ce qui va vous donner des meilleurs rendements. Tu sais, souvent les gens vont dire, ah, mais j'en ai envoyé 1000 lettres, puis j'ai pas eu de résultat. Ouais, mais c'est correct. Tu peux en envoyer 1000, mais continue à le faire à tous les mois. Puis là, tu vas avoir des résultats. Puis tu sais, peut-être que le timing puis la motivation de la personne, elle sera pas au même moment 4 mois plus tard.
C'est souvent la pub.
Ben oui. Puis tu sais, souvent on va closer après 4 ou 5 contacts avec les gens. Puis tu sais, si on est capable d'avoir leur contact, leur courriel, leur téléphone, puis de faire des récurrences avec eux de différentes façons, c'est là que vous allez améliorer énormément la prospection par rapport à tout ça. Fait que tu sais, t'envoies des lettres, tu viens courir dans ton secteur
cours
ferme.
Après les deals.
Exact. C'est
fait que tu sais, elle a un secteur ferme de 42
kilomètres. T'as une boucle, là. C'est vrai ça. Que... Bon, à coup de marathon, tu peux trouver des deals quand même sur une run.
Sur une bonne distance. Puis, en même temps, c'est que ça t'occupe la pensée là, pour prendre les notes puis de ne pas oublier le numéro de téléphone. Tu sais, tu fais exprès de ne pas amener ton téléphone pour ne pas prendre la note. Fait que là, tu fais exprès.
Ah, t'amènes pas ton téléphone quand tu cours. T'amènes-tu ton téléphone quand tu cours?
Il faut que j'écoute de la musique.
Oui, mais pas, tu prends pas d'appel quand tu cours.
Non.
OK. pour le peu de fois que moi je cours aussi, c'est-à-dire trois fois dans l'été peut-être, c'est sûr que mon téléphone ne me suit pas. Là.
Moi, c'est vraiment plus régulier que ça, mais c'est après mes garçons un peu partout.
Je ne comptais pas celle-là. C'est des sprints, ceux-là.
Ouais, c'est des
100 sprints. Mètres.
Oh, oui, oui. Oh là là. Je me rappelle une fois que c'est sauvé juste ici, là, au salon de l'habitation. Et palais. Hein?
Oups.
Ouais. Fait que prospection, on envoie des lettres, on fait des annonces. Fait que tu appelles les gens sur Kijiji qui ont des immeubles, des appartements loués, puis tu leur dis, hey, by the way, j'appelle pour votre appartement loué. Oui, effectivement, est-ce que vous auriez l'intérêt de vendre votre propriété? Puis selon la réponse.
Ouais, il est vraiment laid, votre appart.
Non, mais êtes-vous tanné de vous occuper des locataires, là, ce temps-ci? Le marché est bon, ça vous tente pas d'essayer de vendre.
Ah, ben c'est cool. Puis tu sais, souvent, tu sais, de lancer la perche, on peut avoir quelqu'un qui dise, ben oui, aujourd'hui, moi, je suis vraiment écœuré. Puis mon logement qui est alloué au mois de novembre, ben c'est à cause qu'il était supposé être loué au 30 juin. Puis que là, ça me tente plus, là.
Ouais.
Mais surtout, si tu réussis à appeler, puis c'est le propriétaire directement qui répond, là, ça, il risque d'être encore plus écœuré que s'il y a un gestionnaire. Le gestionnaire, ça se peut qu'il ne transmette pas nécessairement les coordonnées.
Non, lui, il n'est pas tanné.
Mais c'est là que tu enregistres les numéros de téléphone sur ton cellulaire. Quand tu vois que c'est le gestionnaire qui répond, tu raccroches, puis tu en rappelles un autre.
Oui.
Exact.
Est-ce que tu cherches des deals aussi sur Centris? Est-ce que tu fais vraiment de la prospection?
Je regarde sur Centris pour avoir un œil du marché, mais sinon... pas plus qu'il faut, là, je te dirais. Là.
Surtout hors marché, le plus possible.
Exactement.
Cool.
J'ai quand même beaucoup d'appels, même si ça fait 6 mois que je les ai envoyés les lettres, là, je continue à en avoir 2-3 par mois qui continuent de m'appeler. Fait que...
Ouais, c'est ça, le timing est là pour eux à un certain moment dans l'année.
Ah, Criff, c'est vraiment super cool. Puis là, tout de suite après la pause, on va parler d'un sujet vraiment pas plus intéressant et plus spécifique à ta carrière, puis avec tes connaissances aussi. On va parler du prêt privé puis ses avantages. On a parlé un peu survolé le prêt privé sans nécessairement avoir les deux pieds dedans. Fait que j'ai vraiment hâte après la pause pour pouvoir parler de ça. Merci Alexandra d'être présente avec nous. On se rejoint tout de suite après le 4-5 secondes ou la minute et demie de pause.
969 FM, Alternative Radio.
Maman disait toujours... La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Ah ouais, moi, ma mère disait toujours, la vie, c'est comme un gros quartier immobilier. Tu ne sais jamais sur quelle maison tu vas tomber avec un vice caché. Et pour ça, il y a toujours un courtier pour répondre à tes questions.
La bulle immobilière au 96.9 Alternative Radio.
Nous sommes de retour à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin. Toujours avec mon acolyte Kevin Filion. Aujourd'hui, on reçoit Alexandra Côté. Vous le savez, on reçoit des gens qui se spécialisent dans différents domaines. Puis aujourd'hui, pour notre dernier segment, on va parler du prêt privé puis des différents avantages. Une des choses qui est vraiment importante, je crois, selon moi, puis tu pourras me corriger si je me trompe, le bilan personnel, la présentation du projet devient un élément clé pour une approbation ou une acceptation du prêteur.
Effectivement, mais... faut également regarder le projet. Là. Je pense que si tu me présentes un projet, parce que c'est pas tous les projets qui sont qualifiables pour le prêt privé. Fait que oui, effectivement, je vais regarder le bilan de la personne, de l'emprunteur, mais le projet tout d'abord. Parce que ça prend un projet qui a une augmentation de la valeur rapidement. T'sais, si tu veux t'acheter une maison au premier acheteur, c'est pas intéressant, il n'y a pas d'augmentation de valeur. C'est pas. Nous, on fait du financement à court terme, 6-12 mois. Donc, il faut qu'il y ait une création de valeur.
Puis au niveau des coûts qui peuvent être engendrés, justement, parce que tu dis que ça va être des prêts sur du court terme, il doit avoir des coûts pour l'ouverture de dossier, il doit avoir des coûts au niveau du pourcentage. Est-ce qu'on est sur une mince ligne ou est-ce qu'on dit pas d'informations ou on donne une ligne générale?
Je peux donner une ligne générale, mais en fait, faut pas juste s'attarder aux coûts, puis il faut regarder vraiment la valeur que ça apporte. Je pense que ça devient un outil vraiment intéressant pour les investisseurs immobiliers parce que ça leur permet d'avoir une croissance accélérée. Si tu t'attardes juste au coût d'envie, à un moment donné, ça se peut que t'accélères plus. Donc, sinon, tu sais, on n'a pas les mêmes taux d'intérêt qu'une institution financière, on va se le dire. Là, on n'a pas du 2% là, à ce temps-ci. Nos taux varient, mettons, entre du 11 à 16%, là, je te dirais vite comme ça. Ça dépend du projet, ça dépend du premier rang, ça dépend dans quel secteur. Mais grosso modo, ça ressemble à ça.
Puis à ça, il y a des frais de dossier, généralement?
Exactement.
Ou
il y a des frais d'ouverture de dossier. On est autour de 2 à 4.
2 à 4, puis 11, que tu disais 11 à 16 à peu près.
11 à 16, oui, exactement.
Annuel, ça?
Oui.
Annuel. Fait que c'est pour ça aussi, comme tu dis, qu'il faut qu'il y ait une plus-value engendrée assez rapidement, nécessairement pour absorber un peu ces coûts-là, puis c'est normal. Puis en même temps, vous êtes un financement de deuxième niveau après l'institution,
exact.
Il y a un risque plus grand. Souvent, c'est des projets qui sont pas qualifiables au niveau bancaire aussi, ou du moins qu'ils sont moins bien reçus? Là.
Un financement alternatif. Puis tu sais, je pense que si quelqu'un me dit il est finançable à une institution financière, je vais toujours encourager la personne à aller dire ben vas-y, tu sais, si ça fonctionne. Mais tu sais, admettons que ça fait 3 flips que tu fais, puis qu'ils disent non, mais on fait pas d'argent avec toi quand on te prête pour un court terme, fait qu'on refuse si c'est pour acheter une autre maison. Mais nous, le prêt privé, on roule de même. Puis l'avantage, c'est que tu fais un flip avec nous, puis après ça, t'en fais un autre, ben tu peux reprendre cette même garantie-là pour rouler l'autre. Fait que à un moment donné, ça devient intéressant, puis c'est vraiment plus rapide parce que. Tu sais, nous, le débourser, ça peut se faire en dedans de 2 semaines. Mais quand tu vas à ton institution financière, si ça prend 1 mois et demi, mais il faut penser aussi que tu n'as pas fait d'argent pendant ce mois-là, tu sais. Puis que tu n'as pas nécessairement profité du marché parce que c'est présentement qu'il faut acheter puis qu'il faut optimiser. Fait que si tu as perdu 1 mois et demi ou 4 mois quand tu t'en vas à SHL, ben tu sais, il faut le considérer aussi dans le calcul.
Puis au niveau, mettons, multilogement, c'est quoi le genre de projet typique qui peut être justement reçu là, pour le prêt privé ou qui se prêterait à ça?
Oui, on a vraiment plein de beaux projets. Pour vrai, c'est incroyable. Je te dirais, tu sais, c'est augmentation de la valeur rapidement, donc des revenus, ou bien diminution des dépenses, fait que conversion de chauffage. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Quelqu'un qui achète un immeuble avec des logements vacants, good, amène-nous ça. L'institution financière ne voit pas le potentiel. Nous, on le considère. J'ai eu des conversions de multilogements en condo. Oui. Fait que c'est intéressant aussi. Tu as une augmentation de la valeur rapidement. T'sais, si, admettons, en appartement, ça vaut 175 000 la porte, mais tu le mets en condo, tu peux aller chercher 200 215 000. Fait que,
une plus-value là.
Exactement.
L'ajout de logement, peut-être.
L'ajout de logement, hein? Oui. C'est des choses. Tout ça, pour vrai, il y a vraiment plein de projets là, qu'on fait, puis il n'y a pas une catégorie. C'est amène-moi ton projet, puis après ça, je vais regarder. Puis, tu sais, toi, tu peux me présenter un immeuble, puis me dire voici mon projet. Puis Jean-François arrive avec un autre projet, puis. C'est pas pantoute la même chose, puis je le regarde pas de la même façon. Fait que après ça, c'est là que vient en considération le bilan de l'emprunteur.
OK. Puis au niveau du bilan de l'emprunteur, au niveau de la documentation qu'il vient vous fournir, on souhaite à ce que ça soit des gens qui soient organisés, qui aient un Google Drive, puis qui donnent les documents tout à l'intérieur pour pas avoir à fournir 35 courriels pour 35 documents. Là.
Mais exactement, mais je pense que c'est comme ça dans la vie aussi. Quand t'es organisé, c'est plus facile. Fait que oui, si la personne peut être organisée, ça facilite la vie, puis tu sais, t'as le goût encore plus de travailler dans le dossier versus qu'il faut que tu organises les feuilles après ça, puis c'est question d'être sharp et d'être professionnel. Là.
Parce que vous avez nécessairement plusieurs vérifications à faire, un peu comme quand on va en institution. Là.
Exactement.
C'est normal, fait que vous devez avoir comme un guideline ou des documents à fournir. Fait que,
c'est sûr que je demande des documents, mais ils sont pas comme une institution financière, là, par exemple. Ouais. Nous, notre processus, il faut que ça soit rapide.
Ouais.
Fait que faut que ça aille rapidement. Fait qu'ensuite de ça, je ne demanderai pas toutes les mêmes pedigrees là, comme une institution financière peut demander.
Okay. Mais vite fait, ça peut être quoi, mettons, la documentation, les grandes lignes que vous demandez,
mais c'est
nécessairement
sûr que
les chiffres de l'immeuble, j'imagine?
Oui, mais ensuite de ça, en premier lieu, pour ouvrir un dossier, c'est la promesse d'achat puis le bilan.
Ouais.
Puis ensuite de ça, ben, tu vas avoir besoin du certificat de localisation, des assurances, avis de cotisation, des choses comme ça.
OK. Puis après ça, tu discutes justement avec l'investisseur pour connaître c'est quoi le planning, c'est quoi le projet.
Au départ,
voir,
ça. Ouais.
Voir tout de suite le qualitatif, voir si ça fait du sens, là.
Puis, tu sais, moi, de la façon que je vois le prêt privé, c'est souvent un tremplin à l'acquisition. Fait que, tu sais, c'est une façon de faire qui te permet d'avoir une liquidité plus rapide pour pouvoir embarquer dans le projet plus rapidement, puis te permettre d'avoir ton deuxième financement plus rapidement pour la suite, là. Fait que, tu sais, moi, c'est souvent comme ça que je le vois, puis c'est souvent comme ça que ça doit être utilisé aussi, là, où est-ce que les gens vont l'utiliser comme tremplin pour démarrer leur projet, puis un coup que le projet est entamé, ben ils vont embarquer dans leur deuxième processus de financement pour...
Exactement, bridge, admettons, quelqu'un qui veut faire une construction, un entrepreneur qui a un bon contrôle des coûts, ben ça peut être intéressant pour lui, puis ensuite de ça, il est en mesure de refinancer rapidement.
Même chose pour l'optimisation, des fois, on peut avoir déjà notre emprunt pour l'immeuble, mais les travaux, on veut... les financer au privé parce qu'on veut pas nécessairement échelonner les travaux sur 24-36 mois. Là, on veut sortir ça rapidement pour avoir les revenus rapidement aussi. Là.
Puis le genre de projet typique, moi j'en commence un justement où finalement, bon, ça a été reçu, j'ai été accepté avec Desjardins, mais on achète un 6 logements qui est pratiquement vide, qui en a 4 de vide. On en a 2 autres qu'on est en train de gérer pour vider. Ensuite, on a à peu près 4 mois de travaux majeurs à faire. Fait que ça, c'est pas toutes les institutions qui sont prêtes à s'avancer là-dessus parce que ça veut dire un immeuble vide en travaux majeurs. Fait que si jamais ça va pas bien, ben t'es plus à risque. Fait que c'est là, finalement, nous autres, on était capable de le qualifier de ce côté-là avec notre directeur de compte, mais c'est le genre de projet qui peut être très bien reçu en prêt privé.
Exact. Mais d'après moi, t'as un bon contact avec ton directeur de compte. Puis ben, c'est peut-être pas nécessairement le seul projet que vous avez fait, puis une confiance établie.
Exact.
Mais c'est sûr que nous, dans prêt privé, T'sais, oui, on fait ça, puis c'est monnaie courante. Ouais. Là, je vais regarder qui est ton voisin, il se loue combien, puis combien tu peux aller chercher. Fait que...
Parce qu'il y a une notion de rapidité, comme tu disais, mais il y a une notion de risque plus élevé que vous êtes prêt à prendre aussi, c'est-à-dire exact. Plus de vacances, plus de travaux, plus d'investissements.
Mais tu sais, c'est à savoir aussi, est-ce que l'immeuble est vacant parce que l'ancien propriétaire il avait fait une mauvaise gestion, puis qu'il juste, il était tanné, puis qu'il l'avait pas rempli. Puis ça se peut, puis je suis toujours étonnée quand je vois un propriétaire qui fait ça, puis je me dis,
tu l'échappes.
Moi, tu l'échappes, tu es en train de dire non à pas mal d'argent, mais tu sais, les gens, ils peuvent avoir plein de circonstances dans leur vie. Soit ça, ou tu sais, t'achètes un immeuble, puis il faut tout que tu stripes, puis que tu rénoves. Tu fait que ça aussi, mais des fois aussi, quand c'est un 6, ben, tu peux y aller par étage, tu peux y aller progressivement. Fait que c'est des choses qu'on regarde.
Par logement aussi, tu n'es pas obligé nécessairement de stripper complètement l'immeuble. Des fois, ça peut aller plus rapidement pour une question de gestion de chantier, puis de gestion de plainte, etc. Là, tu sais, bien qu'à un moment donné, les locataires...
Quand on en fait, qu'on y va plus progressivement. On est en train d'en faire un projet, justement, un appartement
à la fois.
Ça, c'est sûr, c'est très bien reçu en institution, que ce soit chez Desjardins ou dans le monde bancaire, parce que, bon, c'est rassurant. Tu as toujours un locataire jusqu'à ce que, bon, tu t'entends, il quitte. Tu as peut-être un ou deux mois de réno, tu reloues tout de suite. Mais un projet où tu as l'intention de finaliser ou de vider l'immeuble, de faire des travaux majeurs pendant plusieurs mois... c'est justement, je pense, nous, ça a été accepté, mais on nous a dit, tu sais, ça se peut que vous deviez, pour un prochain, regarder aussi pour le prêt privé. Fait que j'imagine que tu t'es fait présenter toutes sortes de projets dans ce type-là
dernières années. Là. C'est vraiment génial là, de travailler avec les investisseurs. Tu sais, je veux dire, je travaille avec la crème de la crème. Là. Ils veulent persévérer, puis ils veulent accéder à quelque chose de mieux. Fait que là, je suis comme, OK, bon, tu sais, j'ai le rôle de l'investisseur, moi aussi. Fait que je suis comme, OK, ça marche peut-être pas, mais si on le regarde de cette façon-là, on pourrait structurer ça comme ça, puis ça fonctionnerait. Fait que là, il est comme, OK, parfait, good. Puis on y va de même, tu sais. Fait que c'est des aidés mutuellement aussi. Tu sais, j'ai appris beaucoup en travaillant avec eux autres également, mais si je peux leur apporter conseil en les challengeant sur des défis, là.
Puis, sans te peinturer dans le coin, mais si on tombe un petit peu plus dans le crunchy, tu sais, tu dis, normalement, c'est 6 à 12 mois, ça se gère comment quand les gens débordent un petit peu de ces délais-là ou comme.
Ben, tout d'abord, faut demander. Sont rendus où, tu sais, si admettons tu fais un flip, mais t'es pas rendu à, t'as pas fini tes travaux parce que t'as eu un imprévu, ok, bon, mais on va faire un renouvellement. Mais si admettons tu me dis je suis en transaction, tu sais, genre ça s'en va chez le notaire dans pas long, mais là on est vraiment plus flexible. Okay. Ça va vraiment dépendre, c'est du cas par cas où est-ce que t'es rendu. Même chose pour tu sais, ceux qui ont fait admettons avec du multilogement, mais surprise, la SCHL ça prend plus de temps que prévu, ben tu sais, on comprend ça là, fait que.
Parce que moi, j'ai pas tellement passé par là. La seule fois où je l'ai fait, c'est plus du love money, finalement. Okay. Là. Mais ce qu'on entend souvent un peu dans le marché, c'est qu'après la première année, ben, le taux va nécessairement doubler parce que l'argent doit rouler, mais ça doit effectivement dépendre d'un prêteur à l'autre.
Oui, c'est ça. J'imagine que chaque prêteur a sa façon de procéder, mais nous autres, ça va pas doubler, non.
Okay. Puis, tu sais, d'un autre côté, vous êtes des investisseurs aussi. Puis, tu sais, vous investissez votre argent pour avoir un rendement. Fait que c'est sûr que vous allez pas vous fermer les yeux, prêter de l'argent, puis, je fais bien confiance, ça devrait bien aller, là.
Exactement.
Il y a un due diligence qui se fait à l'interne. Fait que, tu sais, il y a une analyse, oui, de l'investisseur qui se fait, mais vous en refaites une analyse selon vos différents paramètres, différents critères, selon vos zones de buffer aussi.
Exact.
Puis, tu sais, si jamais les projets ne font pas de sens, assurément que vous devez les réajuster, les entrepreneurs, pour dire, écoute, tu me demandes un prêt pour 6 mois à constater l'état de tes travaux, à constater que tes locataires sont pas encore sortis de ton immeuble.
Oui.
Je m'attends que tu sois plus à 12 mois ou 18 mois. Fait que, tu sais, dans un cas comme ça, il faut le prévoir en conséquence, là. Tu sais, vide tes logements puis viens me revoir après, là. Tu sais, là, on va te prêter de l'argent puis on va être sûr que ça va avancer.
Exact. Mais notre philosophie, c'est vraiment, tu sais, on veut établir des relations long terme avec les investisseurs. Fait que, tu sais, le but, c'est que tu finisses ton projet le plus rapidement possible puis que tu viennes me revoir avec un autre projet.
Ouais.
Fait que, tu sais, il y a même des fois, j'apporte des deals là, à mes investisseurs. C'est le genre de projet que tu ferais, tu veux te faire, tu sais, puis il l'a acheté puis il a fait un super beau projet. Fait que, tu sais, le but, c'est que...
C'est du donnant-donnant.
C'est du donnant-donant.
Puis, tu sais, dans tout ça...
C'est la prospection, dans le fond. C'est ça, pareil, là. Je veux dire, tu montes ton bassin de...
Exact.
Tu sais, dans tout ça, tout le monde tire son compte. Le prêteur privé tire son compte, l'investisseur tire son compte, la personne qui a vendu a tiré son compte aussi. Fait que, tu sais, c'est vraiment important de le voir dans ce sens-là aussi. Puis, quel genre de garantie que vous prenez par rapport à tout ça? Est-ce que, tu sais, la maison en indivision avec le conjoint-conjointe est toujours pris en garantie? Est-ce que... ça va dépendre des investisseurs parce que des fois, ils vont avoir des immeubles dans leur parc, etc., que vous allez mettre des garanties dessus. C'est où est-ce que vous allez chercher vos garanties?
Ben, ça dépend. On a trois façons pour ce qui est de la mise de fonds, soit en argent liquide. Tu sais, mettons, je vais dire, t'es allé chercher les marges de crédit. Tu sais, ça, c'est de l'argent que je considère. Ensuite de ça, l'équité sur d'autres immeubles. Si t'as un immeuble avec ta conjointe, ben, par la loi, ta conjointe n'a pas le choix de signer pour ton prêt également en tant qu'intervention. Puis sinon, la balance de vente également, je vais la considérer comme une partie de la mise de fonds. Fait que ça devient intéressant.
Puis au niveau des critères, on en a parlé un peu tantôt, y a-tu des projets que tu viens en tête comme ça ou est-ce que tu as eu vraiment un success story justement avec que vous avez été vraiment un facilitateur au développement de projet? Puis tu sais, le résultat escompté était vraiment meilleur que ce qui était prévu?
J'ai une belle histoire d'un monsieur en Gaspésie qui a acheté 48 logements avec nous dernièrement. La première transaction, ça a été un 16. On l'a conseillé, on a organisé quelque chose. Il l'a acheté totalement en balance de vente. Puis ensuite de ça, ça fonctionnait pas avec le courtier hypothécaire. Il y arrivait pas, puis toutes les banques le refusaient. Puis moi, je me disais, ça se peut pas que tout le monde le refuse. C'est un beau dossier. Puis c'est pas moi à m'occuper de son refinancement. On s'entend, moi, je fais le prêt privé. Puis là, j'étais comme, il m'appelait, puis là, je dis, ça va marcher, on va trouver une solution. Puis j'ai appelé une de mes amies qui travaille pour RBC. Puis dans le fond, elle m'a donné un contact. Puis le monsieur, il m'a dit, merci Alexandra, tu sais, j'ai réussi à passer avec mon financement. Fait que là, il a remboursé tout le monde. Puis avec ça, ben là, on a fait un financement pour un autre 32 dans le fond, qui est en mesure d'acheter. Tu sais, le monsieur, il est super, c'est un Gaspésien là.
Il est super reconnaissant là.
Ouais, il est vraiment reconnaissant puis tout ça. Puis tu sais, c'est beau de voir des projets de même. Puis il est avec sa femme là-dedans. Puis tu sais, ils sont super motivés. Puis tu sais, c'est vraiment une belle success story parce que je pense que si on n'avait pas été là, ben ça se serait pas nécessairement passé comme ça. Puis je voyais que le monsieur, il voulait.
Ouais.
Tu sais, des fois, on dit, tout le monde veut investir à Montréal. Là. Mais je pense que dans le prêt privé, j'ai vraiment vu des super beaux projets se réaliser dans les secteurs secondaires et tertiaires. Tu sais, mettons Sherbrooke ou...
Sherbrooke, il y a de la vie, là, ouais. Présentement. Il y a du monde.
Il tire sur le primaire presque, Sherbrooke. Oh, ouais. Ça grouille, là. Mais Gaspé, c'est hot.
C'est cool, quand même.
Il y a un 16 puis un 32.
C'est génial.
Un 48.
Ouais, pour 48 logements qu'il a acheté en dedans d'un an parce qu'on est en mesure de structurer son financement. Fait que ça c'est une des histoires, ouais. Tu sais, il y en a plein
que
tout le temps.
Tu as eu à te déplacer pour aller voir l'immeuble, tu n'avais pas le choix d'aller là puis de prendre du temps puis
ben on fait en FaceTime, tu sais, fait que c'est ça que ça nous apporte aussi, tu sais, ouais. Good, on fait un FaceTime, tu sais, des fois ils ont un rapport d'évaluation, j'ai considéré le rapport d'évaluation, mais sinon après ça avec des photos aussi, tu regardes.
Puis maintenant, on est tellement mobile avec tous les outils qu'on utilise, les zooms de ce monde, etc. Là, ouais. On est capable d'être en temps réel quasiment avec les gens, puis faire la gestion ou la suivi de projet sans être présent et en étant présent.
Ouais, c'est ça.
Les gens ont manqué mon guillemet là, sur les ondes, mais bon.
En vidéo, ça va.
Puis si jamais arrive l'histoire d'horreur, puis malheureusement, le projet n'arrive pas à terme, etc., t'sais, est-ce que ça arrive des situations comme ça? Assurément, mais moins souvent possible.
Mais ça, c'est vraiment pas une histoire d'horreur, là. Je veux dire, c'est dealer avec la société puis les délais que, je veux dire, c'est très normal que ça n'arrive pas, ça respecte pas une échéance pile. Mais sinon, t'sais, le pire qui peut arriver, t'sais, c'est niaiseux, là, mais des fois, on le pense pas. On est comme, non, mais pour vrai, mon plan, il est solide. Je dis, OK, mais si jamais advenant un décès demain puis que t'es pas capable de finir le projet, nous, en tant que prêteur privé, on se demande, comment je vais pouvoir récupérer le meuble, puis il faut que je le vende, parce que moi, je vais pas aller...
finir ton projet.
Finir ton projet. Là. Fait que c'est plus là que je me demande, tu sais, dans la construction, tu sais, je veux pas nécessairement financer sur la valeur une fois terminé, parce que si tu finis, tu sais...
À moitié.
Un chantier à moitié, je veux dire, c'est ça le risque de la construction. Fait que je pense que c'est ça le pire, puis des fois, ça fait passer aux investisseurs d'une autre façon. Tu sais, j'essaie de faire comprendre mon cheminement, là,
mais oui,
qu'est-ce qu'il fait.
Parce que la façon que tu dis là, ça m'amène à penser que tu sais, vous avez une supervision à faire. J'imagine aussi des projets, des chantiers, des avancements.
Exact.
Encore là, dans le monde bancaire, ben ils vont envoyer un évaluateur qui va faire le pourcentage d'avancement de travaux, mais ça, normalement, dans le prêt privé, c'est vous qui faites ce suivi-là.
Ouais, c'est ça, c'est moi qui faisais ça. Fait que, tu sais, on y va avec toutes les méthodes, là. Donne-moi tes factures. On y va avec l'avancement du terrain. Des fois, je fais des visites surprises. Allô?
Fait que... Tu demandes l'adresse, tu pars à courir, puis tu y vas.
Non. C'est ça? Ouais, c'est ça.
Quand c'est à Saint-Hyacinthe. Es-tu
là en 42 km? Si oui, je peux venir te voir d'ici une
heure. Fait que, c'est ça.
Vraiment cool. Écoute, Alexandra, t'as un beau parcours que tu nous as partagé. Je pense qu'on a tous avantage à apprendre à te connaître. Vous voulez avoir plus d'informations? Est-ce que tu as un site Internet?
Non, j'ai pas de site Internet. Vous pouvez me suivre sur la page, sur mon compte Facebook là, ou LinkedIn aussi. Je suis quand même assez active là-dessus.
Alexandra Côté. Puis, si jamais vous demandez où la chercher, ben allez sur les mordus de l'immobilier. Il va y avoir des commentaires, etc. Puis, assurément que vous allez être capable de la...
C'est l'équivalent ici à Québec, c'est Jessica Pearson, puis à Montréal, c'est Alexandra Côté. Fait que si tu vas dans un réseautage puis elle est pas là, tu t'es trompé d'adresse. C'est pas la bonne soirée.
Exact.
C'est ça.
Mais là, j'ai assez hâte que ça recommence.
Ouais,
là,
c'est ça. On a tout hâte, je pense. Honnêtement, là, ça nous manque tout, là.
Ah, écoute, le contact humain est vraiment important. Puis les relations qu'on développe avec ça, c'est vraiment important. Puis tu sais, aparté encore, là, mais la poignée de main, tu sais,
c'est niaiseux, hein.
C'est
ça commence à manquer, là.
Ouais. Puis tu sais, il y a une question de franchise puis de sincérité qui était.
Finir une rencontre, finir une relation aussi. Surtout les gens que tu rencontres pour la première fois ou les premières fois que. C'est ça, salut chinois, le pied, le coude, mais là, maintenant. C'est jamais comme la poignée de main.
Vous étiez à la Bulle immobilière. On est tous les samedis pour notre cinquième saison. C'est quand même super cool. Dès 11h, tout de suite après nous, c'est la zone
par l'alternative.
Salut tout le monde. On est au Chronique KP Management avec Kevin Pépin. Salut Kevin, comment ça va?
Ça va très bien, Jeff. Et toi, Kevin, comment ça va?
Toujours très bien.
Tu nous parles toujours de plein d'informations au niveau de l'immobilier puis tout ça. Puis on aimerait ça que tu nous parles d'une anecdote qui est arrivée pour un peu rendre ça un peu plus...
plus léger cette semaine, mais tout aussi éducatif.
Ben probablement. Oui, oh oui, clairement. On a, en fait, oui, tout au long du parcours, parce que bâtir une société de développement immobilier, c'est extrêmement exigeant. Et beaucoup, beaucoup d'adversité, beaucoup de défis sur le passage. Et oui, clairement, je peux vous conter une anecdote. En fait, je pourrais vous parler de ma deuxième transaction immobilière. Ça vous va?
Après celle que tu nous avais contée cet automne?
Après celle que je vous avais contée cet automne.
T'es revenu à la vie après celle-là?
Oui, ben en fait, elle n'a pas été facile. Genre, elle m'a beaucoup servi comme leçon. Mais la deuxième est tout aussi inspirante. Et je vous garantis de l'écouter jusqu'à la fin parce que le dénouement est assez impressionnant.
OK. C'est bon pour le marketing, t'es fort.
Ouais, ben écoute, fort. Vraiment, mais le dénouement, il est impressionnant. Pas à la fin de l'histoire de la transaction, des années plus tard. Que vous allez comprendre qu'il y a on va faire un connect de dots en fait et comme quoi que chaque action qu'on fait a un impact et peut influencer notre futur.
L'effet papillon, c'est fort.
L'effet papillon, vous allez le comprendre assez vite.
On est deep cet après-midi.
Donc évidemment, on remonte dans le passé après donc je suis étudiant en sciences comptables, j'achète mon premier immeuble avec une marge de crédit étudiante. Et là à un moment donné bon, je deviens vraiment fou en amour, passionné de l'immobilier et là je me procure tous les manuels universitaires qui donnent à l'Université Laval et à la JUCAM sur l'immobilier. Alors, je me mets à lire ça. Et même que j'arrête de lire mes livres dans mon baccalauréat en sciences comptables pour me consacrer à la lecture de ces livres-là. Et là, à force de lire, appeler des banquiers, procurer des rapports d'évaluation professionnelle, puisque je suis vraiment autodidacte, donc j'apprends tout par moi-même, eh bien, je me dis, ben je vais commencer à analyser le marché. Et là, je commence à analyser des immeubles et tout ça alentour de l'immeuble, le premier que j'avais. Et là, je tombe sur un beau 6 logements. C'est dans le secteur de l'est de Sherbrooke. Et l'immeuble, dans le temps, il se vendait, il l'affichait à 780 000. Mais dans le temps, on remonte à... Quand ça remonte ça à peu près à 2016, ben, en 2016, un 6 logements à ce prix-là.
C'est cher.
C'était cher.
C'est cher.
C'est vraiment cher. Et là, je commence à parler alentour de moi. Je parle à certains contacts que je m'étais fait là, en immobilier dans le secteur. Et là, il me dit, ben, écoute, c'est l'immeuble le plus cher. Il n'y a jamais un immeuble qui s'est vendu ce prix-là. Puis, tu sais, le gars, c'est un malade, là. Tu t'achètes pas ça.
Il n'a pas l'affaire.
C'est ça marche pas. Fait que, moi, j'analyse, je fais mes analyses financières et je me rends compte, ben non, c'est pas l'immeuble le plus cher. C'est l'immeuble le moins cher qui s'est vendu d'un comparable du marché. Et la raison est simple, c'est que moi, je le regardais sur le TGA alors que les gens le regardaient tout au prix par porte ou le regardaient au MRB. Dans les faits, quand tu le regardais sur le TGA, c'était le meilleur deal de tous les autres immeubles, même si c'était vendu moins cher. Et ce vendeur-là avait monté les 5,5. C'était des 5,5. C'était un immeuble de 6 unités, tous des 5,5, puis était à 900$. Là, c'était fou, là. Un 5,5
éclatait le marché. 900$,
là, tu sais, t'éclates le marché. Aujourd'hui, on est rendu comme à 1200, 1300. Fait que, tu sais, c'est... Mais à ce moment-là, un 5,5 à ce prix-là... Tout le monde disait, il est loin en chambre. T'sais, c'est tout illégal, c'est tout loin en chambre, c'est impossible, touche pas à ça. Et moi, j'ai la brillante idée d'envoyer une promesse d'achat, 725 000 $ une promesse d'achat parce que j'avais imprimé des clauses sur Word puis j'avais écrit un bout à la main. C'était assez débutant. Et là, j'y envoie ça. Et là, le vendeur me rappelle et il me dit, bon, il dit, écoute, il dit, non seulement c'est moi qui vends l'immeuble, mais je suis aussi courtier. Fait qu'il dit, t'es-tu d'accord si c'est moi qui fais les papiers à l'avenir? Parce que,
tu sais,
il dit, la promesse d'achat a beaucoup de lacunes. Fait que là, je suis comme, ouais, tu
sais.
C'est sûr, c'est moi, je suis encore débutant, tu sais, je n'ai une de fait dans ma manche, puis j'ai pas de partenaire, je suis pas entouré, rien, je suis un one-man show. Fait que ça commence bien, mais lui, dans le fond, il se disait, il se disait tout simplement, ben écoute, il a fait une tentative de communication, donc je vais tout simplement répondre
poliment.
Ta promesse d'achat, c'est de la merde, mais je t'en refais une autre. Et là, on commence à négocier tout ça, et on arrive à un prix, on s'entend. Et là, il me pose la question à un moment donné, il dit, mais tu sais, dis-toi, tu fais quoi dans la vie? Là, je dis, ben, je suis étudiant. Il dit, étudiant. Je dis, ouais. Il dit, tu sais que pour acheter ce bloc-là, ça prend 180 000 de mise de fonds. Je dis, ouais, je sais. Il dit, OK. Il dit, c'est quoi,
t'étudies en quoi?
Tu sais, où est-ce que tu vas trouver l'argent? Et là, c'est là que, bon, j'essaie de négocier une balance de vente. Tu sais, j'essaie de faire mon possible pour réduire ma mise de fonds. Mais tu sais, à cette époque-là, j'ai fait aucune école de formation. J'ai que lu des livres universitaires en immobilier. Puis, j'apprends par moi-même. Et l'histoire, pour accélérer, fait en sorte que j'ai perdu 3 fois la promesse d'achat sur cette transaction-là. OK? J'ai, au début, c'était une institution financière au personnel qui était censé me le financer. Et moi, j'étais sûr que l'immeuble valait beaucoup plus que le prix qu'on s'était entendu. On a comme fini à s'entendre à 740 000 qu'on a fini par s'entendre. Fait qu'on s'entend à 740 000, mais moi, je dis à l'institution financière, je dis, écoute, il vaut 815. Je dis, moi, je vais le faire évaluer par un évaluateur agréé, il va sortir à 815. Tu peux-tu me le financer, sa vraie valeur, et non sur le coût d'achat? Et j'avais réussi à aller chercher une dérogation. J'avais monté jusqu'à la directrice générale c'est la directrice générale d'un centre d'une institution financière au personnel, et j'avais réussi à lui faire comprendre que, regarde, il vaut tellement plus cher, c'est tellement un bon deal, puis j'avais tout monté mon plan de match et tout ça, tu peux-tu me le financer? Donc, si tu me le finances à 80% au personnel sur 815 000 et non 740, ben là, je viens de financer une partie de ma mise de fonds. Et là, tout va bien jusqu'à le 23 décembre... je reçois un appel, et là, c'est Madame X. Et là, Madame X me dit, « Monsieur Pépin, elle dit là, votre dossier est tombé dans mon bureau, des affaires de même, ça se fait pas. » Là, je lui dis, « Mais pourquoi? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? » C'est pourtant, on a négocié les termes, ouais. Tu sais, tout passe au niveau des ratios et tout ça, parce que j'avais été embauché par la firme comptable de Deloitte, donc j'avais un contrat de travail, j'étais accepté pour aller faire mon MBA, CPA, tu sais, j'avais un beau plan à présenter. Et là, elle me dit, « Monsieur Pépin, elle dit, c'est ma dernière journée de travail aujourd'hui, je prends ma retraite. » C'est sa dernière journée, elle me dit ça. Elle dit, « J'ai jamais vu une affaire de même. » Elle dit, « Ça se fait pas des affaires de même. Vous êtes étudiant, vous avez réussi à acheter votre premier immeuble, ça s'est fait une fois. Mais là, elle dit, « Là, vous avez des exceptions. » Elle dit, « Le deuxième, c'est non. » Fait que là, je me retrouve, je pars à la transaction. Et là, durant tout le temps des fêtes, évidemment, moi, ça me trotte dans la tête parce que là, je me dis, hey, faut que je l'achète, c'est vraiment un deal. Je m'en fous que le monde me dise c'est pas un deal. Moi, je pense que c'est un deal, puis je suis sûr que c'est un deal parce que j'avais mes chiffres, j'avais fait mes devoirs, puis c'était un bon deal à faire. Et là, j'essaye toutes les autres institutions financières. Non, non, non et non. Courtier hypothécaire avec un prêteur privé, c'est non. C'était non, là, catégorique. Puis même que je me souviens d'un banquier qui s'en est même moqué de cette transaction-là. Il s'en moquait parce qu'il me disait, voyons, t'es étudiant, tu sais, voyons, t'achèteras pas un immeuble de 740 000, ça se fait pas des affaires de même. Et là, moi, je lâchais pas. Je continuais de rappeler le vendeur. Je disais, écoute, j'ai une idée, je vais essayer ça. Là, je le rappelais. Je disais, une idée, je vais réessayer ça. Je le rappelais, je disais, j'ai une idée, je vais réessayer ça.
C'est ton laboratoire, là.
Et là, lui, il me trouvait, tu sais, bon Québécois, crissement acharné, là. Tu sais, il dit, tabarnan, il dit, il le veut, là, tu sais. Puis lui, il y avait un autre courtier qui lui disait, hey, si ça marche pas avec ton acheteur qui te fait zigonner, moi, j'ai un acheteur. Puis c'est drôle parce qu'à la fin de l'histoire, ces deux-là, aujourd'hui, sont rendus proches de nous. Mais, et là, ça a fini. Que le vendeur a fait quelque chose qu'il n'a jamais fait. Et là, ce podcast-là va être diffusé à grandeur du Québec. Et je serais curieux de savoir s'il y a des gens que ça leur est déjà arrivé. Il a été tellement impressionné par le dévouement et comment que, tu sais, j'étais devant lui, puis oui, j'étais un rookie, mais j'avais le langage. Donc, je comprenais toute la mathématique derrière. tu sais, il savait que je comprenais que c'était un sale deal. Puis lui, il savait rien en savoir parce que, en réalité, lui, il ne vendait pas parce que c'était le moment de le vendre. Il vendait parce qu'il y avait d'autres grosses transactions à faire avec d'autres partners. Puis c'était juste une décision de business. Ça arrive. Ça nous est même déjà arrivé qu'on a vendu des placements qui étaient excellents. Puis à un moment donné, tu te dis, hey, ces liquidités-là, je vais les mettre dans un autre projet. Puis je suis prêt à renoncer à ce projet-là. Puis ça, tu sais, ça fait mal au cœur, mais il faut que tu le fasses. C'est une décision qui est business. Puis lui, c'est ça qu'il faisait. Il a accepté de me cautionner à l'institution financière. Puis en plus de ça, il m'a fait une balance de vente. Donc, il m'a fait passer à l'institution financière qui, l'endroit où le banquier s'était foutu de moi, me disant que c'était impossible d'acheter ça. Mais là, j'avais une autre problématique. Parce que là, j'avais la balance de vente. Mais là, comment est-ce que une balance de vente de 60 000, donc la mise de fonds 180 000, 180 000 moins 60 000, il reste 120 000.
Les ratios.
Ouais. Comment trouver l'autre 120 000, right? Eh bien là, ce que j'ai fait, c'est que j'avais déjà mon premier immeuble qui avait été mon laboratoire. Puis en un an, j'avais réussi à faire augmenter la valeur suffisamment pour le refinancer. Puis j'avais été rechercher un 60 000 de levier. Et là, j'avais un autre 60 000. Là, il manque un autre 60 000 encore. Et là, l'autre 60 000 là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir. En fait, je me suis fait approuver. J'étais approuvé à la maîtrise. Je me suis dit, j'étais approuvé au MBA, CPA. Il n'y a pas des marges de crédit qui existent pour ceux qui sont inscrits à la maîtrise. Et comme de fait, j'ai réussi à me trouver une deuxième marge de crédit étudiante parce que j'ai été la contracter sans même avoir commencé ma maîtrise. Puis j'ai été capable de composer ma mise de fonds comme ça. Mais là, histoire encore, parce que là, le dénouement, c'est que j'ai réussi à l'acheter. Puis évidemment, Mme X qui m'avait dit que ça ne se fait pas des affaires de même, ben, elle est partie à la retraite puis je l'ai jamais revue. J'aurais aimé ça lui dire que j'ai fini par réussir à l'acheter.
Elle va peut-être entendre ça.
Elle va peut-être l'entendre, peut-être. Ça reste que, peu importe d'avoir réussi cette transaction-là, qui par ailleurs a été extrêmement difficile quand t'es un premier acheteur, t'es tout seul, puis t'es pas bien entouré, c'est très, très exigeant. Mentalement, quand t'as des gens qui te tirent de partout puis qui te disent d'arrêter puis que ça se fait pas, tu sais, ça prenait vraiment des nerfs d'acier pour dire non, je fais vraiment une bonne transaction. Et où est-ce qu'il y a vraiment le dénouement qui est au-delà d'avoir juste avoir sorti du notaire avec les clés? J'ai même pas été fêté ça, là. Je suis juste sorti mes choux, c'est me coucher, puis j'étais brûlé.
T'as dormi une semaine.
Hey, la saga a duré comme 5-6 mois, là, cette saga-là. Ça finissait plus. Eh bien, c'est que la balance de vente, j'ai réussi à lui rembourser en 3 mois. En 3 mois, je suis arrivé et je lui disais, hey, j'avais 5 ans pour la rembourser, mais je t'avais dit que aussitôt que je refinançais un autre projet, j'allais respecter ma parole. Et aussitôt que je refinançais mon projet, j'allais te favoriser dans le remboursement. Mais c'est pas garanti. J'ai 5 ans pour la rembourser. Je te dis juste que quand je vais refinir un autre projet puis que je le refinance...
Je pense à toi.
Je vais penser à toi. Ça va pas dire que je vais te rembourser. Et j'avais le choix. J'avais le choix de le rembourser ou pas le rembourser. Et j'étais tellement reconnaissant de ce qu'il avait fait. Parce qu'on s'entend, il y a une valeur qui te cautionne, qui te fait une balance de vente. Puis lui, il en fait pas, là.
C'est pas un pépin, on a compris. Là.
Non,
c'était pas ton oncle,
là. Non, c'était pas mon oncle, c'était pas un membre de la famille. C'était pas arrangé avec les vues. Le gars, il a juste eu confiance dans la relation qu'on avait développée. Et bref, 3 mois plus tard, je suis arrivé, puis j'ai dit, tiens, ta BPV, puis tiens, ta caution, plus de besoin. Et aujourd'hui, ce partenaire-là, près de 3 ans plus tard, et notre plus gros partenaire, c'est un investisseur qui a un peu plus de 500 portes dans la région. Il a énormément d'années d'expérience en immobilier commercial. Il a une excellente réputation et aujourd'hui, c'est un de nos plus gros partenaires. Le REIT, qui va être finalisé à la fin février 2020, est fait avec lui. Nos plus grosses transactions sont faites avec lui. Maintenant, on fait tout avec ce partenaire-là.
Fait que t'étais en train de l'impressionner sans chercher à faire ça, finalement.
Exactement. En fait, la leçon un peu de l'histoire, c'est que, tu sais, c'est juste de rester honnête, évidemment, dans vos décisions business et de respecter votre parole dans le sens que lui m'avait fait énormément confiance en me faisant la balance de vente, en me cautionnant et tout ça. Et il l'a fait avant même que, tu sais, l'entente, c'est que je rembourse dans 5 ans, là.
Ouais.
Il l'a quand même accepté, tu sais, il l'a fait tout simplement parce que j'étais vraiment persévérant puis je revenais toujours avec des solutions pour...
tu sais, c'était des solutions qui faisaient du sens aussi, là.
Ouais, c'est pas fling-flang.
Oui, mais il y en a une qui était fling-flang. parce que il y a une problématique au niveau bancaire. Tu peux pas avoir deux sources de mise de fonds qui premier de la dette. L'une, c'est une marge de crédit étudiante, puis l'autre, c'est une balance de vente, right? Fait que là, comment tu fais?
Juste les ratios de couverture de la dette devaient être Ça marchait pas là.
Puis
ça marche, tu l'as mis comme une dette, c'est ça.
Ouais, mais c'est ridicule parce que marge étudiante, tu payes comme 2% d'intérêt.
Puis tu l'as rentré comme de l'équité comme c'était à toi.
Ouais, exactement. En fait, ils ont simplement incorporé la société. Puis en réalité, moi, j'ai pris ma marge de crédit étudiant, puis je l'ai investi en capitaux propres dans ma société. Ouais. Fait que je suis venu comme épuré, même si la banque est pas stupide, elle sait très bien que la source de mise de fonds, elle vient des capitaux propres de la compagnie, mais qui sont une injection de l'actionnaire qui a pris une dette. Mais ça reste que c'est comme ça qu'on l'a fait passer. Et le fait aussi que c'était un très, 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 très gros investisseur, extrêmement bien réputé au niveau de la banque et demande du marché, que ça a fait en sorte que juste le fait que son nom soit là en caution, on a passé.
Ben eux, ils se disent worst case scenario, c'est qu'ils reprennent l'immeuble dans 2, 3, 4, 5 mois quand toi tu pètes aux frais.
Et voilà.
Puis ça revient juste ce que c'était avant. Là.
Et voilà. Exactement. Fait que voilà,
c'est quand même impressionnant.
Une anecdote du deuxième.
Je suis quand même impressionné aussi qu'en remboursant ta balance de prix de vente, t'as aussi réussi à le sortir comme caution après 3 mois parce que ça c'est quand même gros là.
Ouais, parce qu'il était mal financé.
OK.
Ouais, c'est ça l'affaire, c'est qu'il y avait pas une dette optimale dessus. Puis moi en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'au saut que je l'ai acheté, j'ai tout de suite été optimisé les revenus, j'ai vendu des services à mes locataires.
La radio de partout au Québec, va télécharger l'application CJMD 96.9 sur Apple Store ou Google Play.
Le retour du 96.9. Le retour du 96.9. Les salles des nouvelles. Du lundi au jeudi, de 15h à 18h. Les salles des nouvelles.
Puis en passant, j'ai une condition médicale.
OK, laquelle?
Je peux pas mettre de masque. Je sais pas, puis j'ai pas.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.